VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 11 août 2017. En direct de Washington, Idrissa Sidoudia et Anne Albertson. Nous commençons par les titres.
Au Kenya, l'opposition exige que son candidat, Raila Odinga, soit déclaré vainqueur. Les résultats définitifs de la présidentielle sont attendus à midi, heure locale.
En République centrafricaine, un nouveau rapport du think tank américain Enough Project souligne la prolifération des groupes armés qui se battent pour le contrôle des ressources naturelles.
Au Mali, l'ONU a annoncé hier la présence d'enfants soldats dans les rangs des groupes armés dans le nord.
Au Tchad, libération de l'activiste Bruno Gelkor, arrêté lundi à Moundou, alors qu'il imprimait des t-shirts en soutien à l'opposant Laoken Médard.
Le président américain Donald Trump estime que sa mise en garde à la Corée du Nord n'était peut-être pas assez dure.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Le Kenya suspendu à l'annonce des résultats définitifs de la présidentielle. Les résultats provisoires fournis par la commission électorale donnent 54,3% des voix à Uhuru Kenyatta, le président sortant, et 44,8% à Raila Odinga, après dépouillement de 97% des bulletins. Ce que conteste l'opposition qui insiste sur la victoire de M. Odinga. Pour leur part, les États-Unis ont appelé hier les Kenyans à attendre pacifiquement et patiemment les résultats officiels de l'élection présidentielle et ils demandent aux candidats d'éviter tout recours aux menaces ou à la violence. Le point avec John Lyndon.
Nous exhortons les partis à attendre pacifiquement et patiemment l'annonce officielle des résultats par la commission électorale, a déclaré le département d'État américain. Washington demande à cet organe de garantir l'équité du scrutin. Si des candidats contestent qu'ils le fassent selon la voie constitutionnelle et non pas par des menaces ou des actes de violence, a estimé la diplomatie américaine. Les résultats complets ne sont pas attendus avant midi aujourd'hui, heure de Nairobi. Les chiffres provisoires de la commission électorale donnent une très large avance au président sortant Uhuru Kenyatta. L'opposition a exigé hier que son candidat Raila Odinga soit déclaré vainqueur au lendemain de violences sporadiques qui ont fait 4 morts.
La Centrafrique est menacée par une prolifération de groupes armés qui se battent pour le contrôle des ressources naturelles provoquant une partition de fait du pays, selon le rapport du groupe de réflexion américain Enough Project, publié jeudi. Les violences y redoublent d'intensité et l'ONU évoque un risque de génocide. Le rapport fait comprendre que la lecture confessionnelle du conflit n'est plus la seule valable, car certains groupes armés, autrefois ennemis, s'allient ponctuellement selon, je cite, un agenda politique propre. L'ex-Séléka s'est ainsi divisé en 8 groupes armés, tandis que les milices anti-Balaka se sont divisées en 4 groupes distincts. La publication du rapport intervient alors que des tueries ont fait au moins 60 morts depuis début juillet, de Bangassou et Gambo dans le sud-est à Ngaoundaï dans le nord-ouest, en passant par Alindao dans le sud.
Au Tchad, l'activiste Bruno Gelkor a été remis en liberté, rapporte l'AFP. Il avait été arrêté lundi à Moundou, dans le sud, alors qu'il imprimait des t-shirts en soutien à l'opposant Laoken Médard. Ce dernier est lui-même en prison, où, selon son avocat, il a été la cible de tentatives d'empoisonnement. Ancien candidat à la présidence et ex-maire de Moundou, Laoken Médard a été destitué fin juin par le conseil municipal de cette ville pour malversation financière et mis en examen le 17 pour détournement de biens et complicité.
En Côte d'Ivoire, des partisans de l'ancien chef des rebelles des Forces Nouvelles, Guillaume Soro, homme clé de la scène politique ivoirienne et probable candidat à la prochaine présidentielle, ont annoncé jeudi la naissance d'un nouveau mouvement, l'Amicale des Forces Nouvelles. Guillaume Soro, actuellement président de l'Assemblée nationale, ne dispose pas d'un parti politique. Il est membre du Rassemblement des Républicains, le RDR du président Alassane Ouattara. En annonçant la naissance de cette nouvelle amicale des forces nouvelles, son secrétaire général Félicien Sekongo a démenti toute ambition de transformer l'AFN en parti politique. La naissance de l'AFN n'est pas liée à 2020, année de la prochaine élection présidentielle, a assuré M. Sekongo, qui était un porte-parole politique des forces nouvelles en 2009-2010.
Au Mali, l'ONU a annoncé hier que des enfants soldats sont présents dans les rangs de groupes armés s'affrontant dans le nord et des mineurs sont actuellement détenus par l'ex-rébellion à dominant Touareg CMA dans son fief de Kidal. Malgré un accord de paix signé en mai-juin 2015, les combats ont repris ces dernières semaines entre les groupes armés pro-gouvernementaux réunis au sein de la plateforme et les groupes de la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA. Sur les 33 personnes actuellement détenues par la CMA à Kidal, 8 sont des enfants, a indiqué dans un communiqué le directeur de la division des droits de l'homme de la mission de l'ONU au Mali, Guillaume Ngueffa. Monsieur Ngueffa a également détaillé des violations des droits de l'homme perpétrées par les deux camps et relevées lors de 7 missions sur le terrain effectuées par la MINUSMA depuis un mois.
La marine libyenne a annoncé jeudi la création au large du territoire d'une zone de recherche et de sauvetage. Elle interdit, sauf autorisation, aux navires étrangers, en particulier aux ONG, qui patrouillent en eau libyenne pour secourir des migrants. La mission de ces ONG suscite des tensions dans la région. L'Italie, qui a vu débarquer plus de 600 000 migrants depuis 2014, essentiellement via la Libye, tente de fermer la route et a mis en place début août un code de conduite imposant transparence et coopération maximum aux ONG de secours en mer, code que plusieurs ont refusé de signer.
Concernant toujours la migration clandestine vers l'Europe, l'Espagne est en train de ravir la vedette à la Grèce. Des migrants y débarquent en plein jour sur la plage, au milieu des touristes ou s'y font transporter en jet ski. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
En un jour, des dizaines de migrants ont débarqué au milieu des baigneurs sur la plage andalouse de Zahara, de Los Atún, dans le sud de l'Espagne. Avec des canots, ils avaient réussi à franchir les 18 kilomètres du détroit de Gibraltar. Une douzaine d'autres ont été déposés par des passeurs en jet ski à Ceuta, enclave espagnole au Maroc. L'un d'eux, un Guinéen de 28 ans, s'est noyé avant d'atteindre la plage. D'après l'Organisation internationale pour les migrations, 120 migrants sont morts en tentant la traversée vers l'Espagne depuis le début de l'année. Plus de 8000 migrants ont pu atteindre les côtes espagnoles selon Joël Milman, alors que plus de 11000 personnes sont arrivées en Grèce. Cependant, l'Italie reste la destination la plus prisée, avec plus de 96 400 migrants qui y ont débarqué depuis le début de l'année. Ces migrants, pour beaucoup venus d'Afrique de l'Ouest, sont souvent âgés de 16 à 40 ans.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président des États-Unis, Donald Trump, a défendu hier avec énergie sa mise en garde à la Corée du Nord, à laquelle il a promis le feu et la colère, estimant que cette mise en garde n'était peut-être pas assez dure. Le point avec Morgane Guériec.
Depuis son golf de Bedminster, dans le New Jersey, où il passe des vacances, le président Trump a déclaré qu'il est grand temps que quelqu'un parle haut et fort pour les habitants de ce pays et les habitants d'autres pays. Il a refusé de commenter sur d'éventuelles frappes préventives visant la Corée du Nord pour contrer le développement de ses programmes nucléaires et balistiques. Après un tweet menaçant du chef de la Maison-Blanche, affirmant que l'arsenal nucléaire américain était plus fort et plus puissant que jamais, Pyongyang a présenté hier un projet détaillé pour tirer une salve de 4 missiles au-dessus du Japon vers le territoire américain de Guam dans le Pacifique. Donald Trump a réagi hier affirmant que si la Corée du Nord fait quoi que ce soit, ne serait-ce qu'en songeant à attaquer des gens que nous aimons ou nos alliés, il devrait être très très inquiet car des choses qu'il n'avait jamais cru possibles vont leur arriver.
Par ailleurs, le président Trump a estimé jeudi que l'Iran ne respectait pas l'esprit de l'accord sur le nucléaire signé en 2015 à Vienne. Il a réaffirmé sa conviction qu'il s'agissait d'un texte horrible. Monsieur Trump n'a jamais à ce stade remis en cause ce document, considéré comme l'un des principaux succès de son prédécesseur Barack Obama, qu'il avait pourtant promis durant sa campagne de déchirer.
Les températures, la montée des océans et les émissions de gaz à effet de serre ont atteint des niveaux sans précédent en 2016. Une nouvelle année noire pour le climat, c'est ce qu'a montré jeudi une étude internationale de référence publiée par l'Agence américaine océanique et atmosphérique et l'American Meteorological Society. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco.
La Guinée équatoriale souhaite signer un accord avec le FMI pour un prêt similaire à celui contracté par la Centrafrique, le Tchad et le Gabon. Cette demande arrive alors que la production pétrolière de la Guinée équatoriale devrait chuter de 21% en 2018, entraînant un nouveau recul du PIB. Deux autres pays sont en pourparlers avec le FMI, le Cameroun et le Congo, accusés par le FMI d'avoir caché une partie de sa dette. Une étude publiée par le département des affaires économiques et sociales de l'ONU indique que l'Afrique comptera près de 4,5 milliards d'habitants en 2100, soit 40% de l'humanité. Actuellement, le continent abrite 1,3 milliard de personnes, soit 17% de la population mondiale. Le rapport souligne que le Nigeria devrait passer de 191 millions d'habitants à plus de 410 millions en 2030, se classant en troisième position des pays les plus peuplés au monde devant les États-Unis. Au Burkina Faso, les salaires des fonctionnaires seront bientôt versés uniquement par virement bancaire. Le ministère de l'Économie et des Finances a annoncé que la mesure sera mise en place dès octobre 2017 dans le but de sécuriser les paiements effectués par l'État. Ce nouveau système vient remplacer les paiements numéraires ou billettage en place depuis 2015.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Edessa, bonjour à tous.
Mondiaux d'athlétisme à Londres, pas de doublé pour Van Niekerk.
Et oui, le Sud-Africain battu sur le fil en finale du 200 mètres hier soir. Le Turc Ramil Guliyev a volé la vedette à Wade Van Niekerk en le devançant de 2 petits centièmes. Une victoire en 20 secondes, 9 centièmes pour le coureur de 27 ans qui devient au passage le premier Turc champion du monde du demi-tour de piste. Le duel entre le Sud-Africain qui rêvait du doublé après sa victoire sur 400 mètres et le Botswanais Isaac Makwala n'a pas eu lieu puisque Makwala n'a fini que 6e en 20 secondes, 44 centièmes. Les autres résultats et les Américains toujours au top. Christian Taylor a été sacré champion du monde du triple saut. Taylor, double champion olympique en titre, l'a emporté avec un saut de 17,68 m devant son compatriote Will Clay et le Portugais Nelson Évora. L'Américaine Corey Carter a été sacrée championne du monde du 400 mètres haies en 53 secondes et 7 centièmes. Elle devance sa compatriote Dalila Muhammad et la Jamaïcaine Ristanana Tracy. À suivre ce vendredi la grande finale du 200 mètres et on espère un bon résultat pour l'Ivoirienne Marie-Josée Talou. Au classement des médailles, les Américains toujours en tête avec 19 médailles, dont 6 en or. Derrière, pas de changement, le Kenya 2e avec 3 médailles d'or, l'Afrique du Sud 3e avec 2 médailles d'or.
Dembélé va au clash avec Dortmund.
Oui, l'attaquant Ousmane Dembélé, pressenti au FC Barcelone, a séché l'entraînement à Dortmund hier, poussant le club allemand à considérer son départ comme peu probable. Le club a annoncé ensuite dans un communiqué lui infliger, en raison de son absence délibérée, une suspension jusqu'à la fin du week-end. Dembélé ne jouera donc pas samedi le match de Coupe d'Allemagne. Le Borussia Dortmund assure par ailleurs que Dembélé est toujours dans la ville de Dortmund, contrairement à ce que disaient certains médias annonçant le joueur en route pour Barcelone.
On reparle de la controverse autour de la CAN 2019 au Cameroun.
Eh oui, l'un des membres du comité de préparation de cette CAN 2019 qui prend la parole ce matin sur VOA Afrique, Joseph Antoine Bell, ancienne gloire du football camerounais, qui affirme que son pays sera prêt pour 2019. Il met aussi en garde la Confédération africaine de football contre de possibles poursuites judiciaires en cas de retrait de l'organisation au Cameroun.
Je pense que ce serait une grosse bêtise parce que ce serait une grosse secousse. Monsieur Hamad a été élu pour faire bouger les choses, mais il n'a pas été élu pour casser la CAF. Et donc, vous imaginez bien, le monde d'aujourd'hui est juridique. Honnêtement, je ne vois pas qui serait s'engager dans un endroit dont personne ne veut et qui ne serait pas à l'honneur du football africain.
Joseph Antoine Bell sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le groupe de travail sur le processus de paix en République démocratique du Congo évalue dans son rapport la mise en œuvre de l'accord politique de la Saint-Sylvestre. 7 mois après, l'opposition continue d'exiger les élections avant la fin de l'année. Solange Niamoulissa a joint Emmanuel Kabengele, coordonnateur national du réseau pour la réforme du secteur de sécurité et de justice, pour un état des lieux.
7 mois après, on se rend compte que nous sommes en train de retourner à la case de départ. Cette impasse continue à persister. Il y a l'incertitude qui plane sur le fait que les élections pourraient se tenir en décembre 2017. La mise en place des institutions dans le cadre de l'esprit de l'accord, d'une certaine manière, ne convainc pas l'opinion par rapport à cette mise en œuvre de l'accord. Et toute cette situation nous a amenés à rédiger ce rapport et à proposer un certain nombre de recommandations.
Quelles sont les recommandations que vous proposez?
Pratiquement des recommandations destinées à la fois à la majorité présidentielle, l'opposition politique et la société civile. Nous pensons que ces acteurs pourraient faire preuve de bonne foi pour faciliter l'organisation des élections dans le respect du délai convenu dans l'accord politique. Et nous pensons également que ce parti prenante pourrait arriver à dégager un consensus pour la redéfinition de la séquence électorale en privilégiant l'élection présidentielle. C'est facile à organiser en tenant compte du temps. Mais au-delà des parties prenantes de manière globale, nous avons également pensé aux institutions de la République, Assemblée nationale, au Sénat, à la CENI, au gouvernement et également au CNSA qui est chargé du suivi de la mise en œuvre de l'accord.
Est-ce que les élections sont possibles avant la fin de l'année? Est-ce que techniquement le gouvernement est capable d'en organiser? Est-ce qu'il a le moyen? On sait que le recensement n'est pas encore terminé.
En tout cas, sincèrement, il faut vous avouer que les indicateurs étant ce qu'ils sont, il serait à notre avis pratiquement difficile que les élections se tiennent en décembre 2017, tel que prévu, donc toutes les séquences des élections présidentielles, les élections à la députation nationale et les élections à la députation provinciale. Les choses étant ce qu'elles sont, nous ne voyons pas que les indicateurs pourraient nous amener à l'organisation des élections dans le respect des séances.
C'était Emmanuel Kabengele, coordonnateur national du réseau pour la réforme du secteur de sécurité et de justice.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Johan Gustafsson, un ex-otage suédois détenu par Al-Qaïda au Mali pendant plus de 5 ans avant d'être libéré en juin, a dénoncé hier le versement de rançons dans les affaires d'enlèvement. Pour un commentaire, Eric Manirakiza a joint à Bruxelles l'ancien fonctionnaire de l'ONU, actuellement directeur du Centre stratégique pour la sécurité du Sahel-Sahara, Ahmedou Ould Abdallah.
Le premier réflexe, comme précisément il est suédois, c'est de penser au complexe de Stockholm, le complexe suédois, la sympathie des otages avec les ravisseurs. En l'occurrence, ce n'est pas le cas, parce qu'il demande qu'on ne paye plus de rançon. D'abord, je suis content pour lui et plus tard son ancien collègue d'infortune sud-africain d'avoir été libéré et content pour leur famille. Mais beaucoup de questions se posent sur cette libération qui a pris beaucoup de temps. Le paiement de rançon lui-même est condamné par les Nations Unies, par beaucoup d'institutions, y compris l'Union africaine. C'est un dilemme. Il y a des pays qui l'interdisent systématiquement, les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, la Nouvelle-Zélande, pour ne citer que des cas que j'ai connus quand j'étais en Somalie. Il y a d'autres pays qui le refusent, mais qui trouvent le moyen de libérer les otages, soit par des assurances, soit par des sociétés privées. Toujours est-il que vaut mieux être libéré maintenant qu'après 5 ans. Effectivement, le paiement encourage la prise d'otages parce que c'est un fonds de guerre.
Ces libérations vous paraissent bizarres. Vous doutez donc qu'il y aurait eu rançon pour leur libération?
Écoutez, je pense que beaucoup de personnes d'institutions dans le Sahel, donc au Mali, au Niger, en Mauritanie, au Burkina Faso, en particulier, sans mentionner le Tchad, se posent des questions. Ces libérations successives, donc les 2 otages ont été libérés rapidement, il y a quelque chose de nouveau, c'est que la libération s'est faite loin des palais présidentiels, s'est faite loin de la présence de la presse et des caméras de télévision, et s'est faite loin des déclarations convenues de remerciement, et elle s'est faite aussi sans compensation de couverture, parce qu'on n'a jamais parlé d'argent payé, même si tout le monde sait qu'il a été payé. On a surtout vu des prisonniers proches des ravisseurs être libérés. Or, cette fois-ci, donc, ni caméra, ni discours de remerciement, ni libération des prisonniers. Et c'est une nouvelle, donc, donne qui se développe au Sahel et qui mérite d'être mieux examinée et mieux discutée.
Pourtant, Johan Gustafsson, cet ex-otage, il dit qu'il a été remis à des policiers suédois dans un désert qu'il ne mentionne pas.
Ça ajoute à l'énigme. Alors, quel est ce désert et comment se fait-il que des policiers suédois aillent dans ce désert? Lequel désert? Le désert est énorme et beaucoup de pays sont frontaliers. Donc, il a été remis à des policiers dans le désert. Comment ils sont venus sans être pris eux-mêmes en otage? Quel est le gouvernement qui les a aidés à traverser les frontières pour se trouver en face? Donc, votre question pose beaucoup de problèmes dans le Sahel, des problèmes sur lesquels beaucoup de gens réfléchissent. Bien sûr, les pays concernés et leurs partenaires étrangers savent ce qui s'est passé, les réseaux, mais pour nous autres, beaucoup de questions se posent et la presse va certainement faire des recherches pour clarifier cela davantage.
Le directeur du Centre stratégique pour la sécurité du Sahel-Sahara, Ahmedou Ould Abdallah, joint à Bruxelles.
Restez branchés 24/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Retour sur la tragédie des migrants au large du Yémen dont nous vous parlions hier, celle des quelques 300 Africains qui ont été jetés à la mer en 24 heures par des passeurs, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Yacouba Ouédraogo a joint Leonard Doyle, porte-parole de l'OIM.
On a 150 en total qui ont été mis en mer. Il y a 13 qui sont disparus, 6 qui sont morts. Hier, on a trouvé qu'il y a une vingtaine de personnes qui sont mortes en total. Alors, c'est plus ou moins 100 personnes qui ont été sauvées.
Est-ce qu'ils avaient payé leur passeur et à combien la traversée?
Ils ont payé presque 100 $ chacun. Normalement, ça doit être ce qu'il faut payer pour faire le trajet. Mais c'est évident qu'aussi, souvent, ils demandent jusqu'à 1 000 $. Quand ils arrivent à Yémen, ils les mettent en prison et ça devient beaucoup, beaucoup plus difficile pour eux.
On sait que le Yémen n'est pas leur destination privilégiée dans la mesure où le Yémen aussi est déchiré par la guerre. Où est-ce qu'ils vont?
La plupart essaient d'aller en Arabie Saoudite ou bien sur le Golfe. Mais Yémen, c'est très difficile parce que c'est un pays en guerre. Il y a le choléra partout, il y a de famine aussi. C'est une situation très, très, très difficile pour eux.
Le même phénomène est observé dans le désert du Ténéré. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à cela?
Il faut beaucoup plus d'assistance. Il faut aider les gens de rester chez eux, d'avoir des jobs chez eux. L'idée est que ces jeunes de 16 ans vont chercher les emplois en Arabie Saoudite. C'est pas bon, s'ils ne sont pas très bien reçus là-bas. Souvent, ils sont expulsés, sont exploités. Alors, c'est une situation très, très difficile. Sur le côté humanitaire, c'est très dangereux. Nous, on est là pour les soutenir, pour les aider, pour trouver les vulnérables, pour donner de l'aide et pour les aider à retourner chez eux si c'est ça qu'ils veulent.
Leonard Doyle, porte-parole de l'OIM, joint à Genève, en Suisse. Adopté en l'an 2000, l'African Growth and Opportunity Act soutient l'économie de 38 pays africains éligibles à ce jour. L'heure est au bilan. Dans la capitale togolaise, dirigeants africains et américains, en présence d'hommes d'affaires, viennent d'envisager comment tirer meilleur profit de cet accord de libre-échange. Ce forum de Lagoa a pris fin hier jeudi. Reportage Ideal Concept Production. Récit Gaby Dorsil.
Le 16e forum de Lagoa a servi de cadre au ministre du Commerce des pays éligibles afin de tirer meilleur profit de cette loi. C'est une loi qui permet aux pays de l'Afrique subsaharienne d'exporter sur le marché américain sans droit de douane. Bernadette Legezim Balouki, ministre du Commerce du Togo.
Aujourd'hui, nous sommes en train de voir quelles sont les contraintes. Qu'est-ce qui fait que ceux qui ont été éligibles à Lagoa n'ont pas encore profité de cette loi.
Le forum de Lomé intervient à un moment où on note que la nouvelle administration américaine porte moins son attention sur le continent africain. À raison, beaucoup d'observateurs s'interrogent sur l'avenir de la loi, mais les responsables américains rassurent.
The United States is committed to Africa.
L'engagement des États-Unis envers l'Afrique continue. Nous voyons de grandes possibilités d'approfondir nos rapports commerciaux avec, comme objectif, la création d'un partenariat véritable pour l'avenir, la baisse des barrières commerciales et autres éléments qui gênent le commerce et l'investissement contribuera à l'amélioration des échanges entre les États-Unis et l'Afrique. Cependant, pour y arriver, il nous faut faire davantage et cela fait partie des discussions de cet important forum de Lagoa.
Déclaration de Robert Lighthizer, représentant des États-Unis pour le commerce. Au total, 6 000 produits sont concernés par les réductions de taxes à l'importation, mais elles ne sont applicables que sous certaines conditions. Candide Léguédé, présidente de l'association des femmes chefs d'entreprise, explique.
C'est vrai que c'est tout un processus. Il faut se préparer pour aller à l'exportation. On ne peut pas se lever du jour au lendemain pour dire qu'on veut aller sur le marché américain. Il y a aussi le problème d'accès au marché. Nos États, ceux qui sont admis sous AGOA, doivent donc mettre en place des stratégies et des plans d'action pour pouvoir faciliter donc ce processus-là.
L'AGOA devait expirer en septembre 2015, mais elle a été prolongée jusqu'au 30 septembre 2025.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h, temps universel, dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa. Yeah.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.